Check it.
Blaster.
Radio Campus, 99.5. Et sur notre site, radiocampustour.com.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans Ghetto Blaster, et comme vous avez pu l'entendre juste à l'instant avec le petit jingle fait au mégaphone, vous êtes sur notre radio donc. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, vu qu'on accueille la fanfare saugrenue avec Simon Dupire, qui est tromboniste et compositeur du dernier EP qu'ils ont sorti, et qui vient nous parler un peu de tout ça. Donc c'est une brigade de tour qui vient exécuter des reprises qui va de Queen jusqu'à Radiohead, et qui leur confère un nouvel habillage en s'armant de saxophones, de percussions ou encore de trompettes. Et dernièrement, comme je disais, ils ont sorti leur 4 titres Brass Cover, et qui est sorti le 3 septembre dernier, et on va en discuter tout de suite. Comment tu vas, Simon ?
Eh ben, ça va très bien, bonsoir.
Parfait. Mais pour commencer ça, je voulais poser une question très simple. Vous avez sorti donc l'EP le 3 septembre dernier. Est-ce que vous avez eu des retours ? Comment vous avez senti cette sortie ? Puis que c'est nouveau, normalement vous faites beaucoup plus de concerts et les sorties, c'est pas forcément ce que vous faites régulièrement. Est-ce que vous avez eu des retours ? Est-ce que c'était attendu aussi peut-être ?
Nous, on a commencé à avoir quelques retours, des commentaires sur les plateformes où ça a été diffusé. Après, oui, c'est aussi une nouveauté pour nous parce que la fanfare existe depuis maintenant 10 ans. Et on s'est réservé pendant très longtemps sur uniquement des prestations scéniques en rue. Enfin, scénique, voilà, la rue est une scène, voilà, c'est... sans forcément avoir de volonté pendant très longtemps de sortir une trace enregistrée de ce qu'on faisait. Et voilà, donc là, ça a été une nouveauté. Au bout de 10 ans, on a enfin sauté le pas à sortir cet enregistrement.
Et d'ailleurs, pendant ces 10 ans, vous avez donc le collectif de la Saugrenue qui est composé de 7 groupes. Plus vous, qui varie, qui est principalement du spectacle de rue, mais sous diverses formes, divers genres, divers mélanges. Je pense par exemple à Kif Kif, Suck Da Head, le Petit Bal Perdu, pour citer que. Quel est le lien qui vous unit entre vous ? Qu'est-ce qui a fait que depuis ces 10 ans, en dehors de peut-être déjà il y a l'art du spectacle de rue, mais peut-être d'autres choses ? Comment vous êtes aussi rencontrés ?
Alors en fait, la Saugrenue va bientôt fêter ses 20 ans et à la base, c'était avant tout une bande de potes hein, qui s'étaient rencontrés à faire de la musique sans volonté professionnelle au début. Et puis, petit à petit, ça s'est fédéré. Au début, c'était vraiment très large. Il y avait une idée de faire un fanzine, des expos, des soirées dans des bars... Et assez rapidement, ça s'est recentré sur la musique, notamment une fanfare qui était la Goutonnée, qui est un peu l'ancêtre de la fanfare saugrenue. Et voilà, ça s'est assez vite recentré sur la musique. Par la suite, ça s'est professionnalisé. La saugrenue, je parle de manière plus générale. Et après, le lien entre tous les groupes, c'est que on a assez souvent des musiciens qui jouent dans différents projets. Voilà, c'est le cas dans la fanfare, on était plusieurs à jouer dans le quatuor Megamix. Il y en a qui jouent aussi dans le baluche de la saugrenue, d'autres qui jouent dans Kif Kif. Voilà, ça brasse aussi pas mal de monde. Et c'est pas une condition sine qua non, mais assez souvent, il y a des gens qui participent à plusieurs formations au sein même de la saugrenue.
Et d'ailleurs, je voulais savoir, vous êtes aussi structuré par le 37 Parallèle, qui est un lieu à Tournord qui abrite donc plusieurs collectifs qui s'étendent encore plus, dont la Saugrenue. Je voulais savoir comment, vu que vous êtes financé par les aides départementales, comment un tel projet, donc, qui est centré sur l'art de rue, arrive à naître et accepté et financé indirectement aussi par l'État, ce genre de choses, comment ça peut comment
Alors
convaincre?
là, c'est pas uniquement au niveau du 37e parallèle. Le 37e parallèle, c'est un lieu qui accueille différentes compagnies permanentes. On est une dizaine à peu près. C'est chaque compagnie permanente a un lieu au sein du 37e qui lui est propre, qui lui est dédié. Et après, on a des espaces communs qui permettent de faire pour nous-mêmes des résidences et d'accueillir aussi des résidences. Donc il y a un fonctionnement au niveau du 37e, qui est un lieu qui appartient à la métropole, qui est mise à disposition de ces compagnies par la métropole, et les compagnies doivent gérer collectivement ce lieu. Alors après, il y a aussi des employés dédiés au 37e parallèle, il y a un régisseur du lieu, il y a une coordinatrice générale et un assistant de production aussi, voilà, qui gère ce lieu, mais après, chaque compagnie permanente qui réside au 37e parallèle peut avoir aussi un fonctionnement indépendant et propre à chaque compagnie.
D'ailleurs, cette compagnie, elle est ouverte un peu à tout le monde. On peut, si des gens souhaitent faire un spectacle même, est-ce que c'est possible, indépendamment des compagnies, mais plus de la structure? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible?
La question, c'est au niveau de la Saugrenue ou du 37e
Là,
parallèle?
rester sur le 37e.
Sur le 37e parallèle, oui, bien sûr, le lieu est ouvert aux résidences. Il y a une volonté quand même de privilégier l'ancrage local, mais après, il y a aussi des compagnies qui viennent d'un peu plus loin en France. Et le dépôt des candidatures pour les résidences se fait plus de 6 mois à l'avance. Voilà, pour avoir une vue assez large sur le planning
Ouais, parce qu'il
d'occupation
faut
des lieux.
comprendre aussi du coup que c'est il y a des salles de spectacle, c'est ça, et un
C'est,
studio
alors à la base,
de
c'est
répétition
pas
en
un
tout cas.
lieu de diffusion d'événements. Ça arrive ponctuellement qu'on le fasse. Ça a été le cas il y a 3 semaines pour un événement jeune public dont c'était la première édition qui s'appelait La Cour des rêves à la fin du mois de septembre. Mais à la base, c'est avant tout un lieu de création. Voilà.
Et je voulais parler aussi de, toujours dans ce truc d'institutionnalisation là, vous êtes beaucoup dans, là je vais revenir sur la fanfare, beaucoup d'entre vous ont fait le conservatoire, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais...
Ce n'est pas mon cas, moi je suis passé par la fac de musicologie.
D'accord, mais qui, voilà, on pourrait dire c'est une institution en tout cas, et y avait, est-ce qu'il y avait un peu cette envie de s'écarter de ça, vu que vous revendiquez un peu ce côté un peu, ce bazar maîtrisé, un peu dans la fanfare? Est-ce que ça faisait du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui a... Quelle est la plus-value finalement de s'éloigner de tout ça?
On n'est pas si éloigné que ça. Il y a encore, même maintenant, dans la Saugrenue, des gens qui sont profs en conservatoire, en école de musique, même certains à Jazz à Tours aussi. On vient un peu de tous ces horizons-là et on s'est rencontrés à Tours parce que Tours, on a cette chance d'avoir beaucoup de structures dédiées à la musique, que ce soit le conservatoire, la fac, Tous en scène, Jazz à Tours. Il y a tout un réseau qui fait qu'il y a beaucoup de musiciens qui se retrouve ici et où du coup il y a une activité musicale qui est quand même assez riche sur la ville et la région de Tours.
D'accord.
Mais après, il n'y a pas forcément une. On renie pas notre passé. voilà. Moi, je suis pas passé par le conservatoire, mais voilà, moi c'était la fac de musico.
Mais du coup, ça apporte tout de même quelque chose d'autre, cette activité même pour, par exemple, ceux qui sont encore profs en école de musique.
Ouais, on développe quand on en a l'occasion et parce que c'est aussi un plaisir pour nous des projets pédagogiques. Ça arrive pour la fanfare notamment. On en avait fait un avec le festival Jazz sous les pommiers à Coutances en Normandie, qui est un gros festival de jazz en France et qui nous avait invités à faire un partenariat sur l'année avec une classe des classes de collège. C'est un atelier orchestre dans un collège. Et on est intervenu plusieurs fois dans l'année pour leur faire travailler nos morceaux et ensuite faire une restitution lors du festival qui avait lieu en mai 2013, je crois, si mes
Ok.
souvenirs sont bons.
Super intéressant, mais du coup, on va faire une courte pause et on va s'écouter le premier titre de votre EP, donc Black Olsen, qui est une reprise de Soundgarden. Donc je vous passe ça tout de suite.
call son, won't you come and wash away the rain? Black old son, won't you come, won't you come?
Vous êtes toujours dans Ghetto Blaster, Radio Campus Tour 99.5, et on est avec la Fanfare Saugrenue et Simon Dupire, qui est donc tromboniste et compositeur de leur dernier EP Brass Cover. Simon, je voulais savoir, étant donné que vous êtes une fanfare et que c'est quelque chose qui est, on va dire, inhérent à la ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, est-ce qu'elle est un peu l'ancrage là-bas? Est-ce qu'il y a une quelconque inspiration, pas forcément de groupe, mais en tout cas le type de formation, ne serait-ce même dans la Saugrenue en général?
Alors dans la Saugrenue en général, l'inspiration Nouvelle-Orléans, c'est plus Kif Kif et Suck the Head, qui est un groupe voisin de la Saugrenue. Mais de manière plus générale, il y a vraiment une tradition des fanfares à la Nouvelle-Orléans qui a transpiré depuis une vingtaine d'années en fait en France, avec les premiers à avoir vraiment fait ça, ça a été Ceux qui marchent debout. Voilà, au tout début de la Saugrenue, quand on a lancé cette première fanfare qui était la Boutonnée, c'était pour faire un peu comme Ceux qui marchent debout. Voilà, après ça a dérivé et maintenant il y a énormément de fanfares un peu partout en France, hein. Mais après, nous maintenant, et particulièrement sur cette EP, il y a une volonté d'aller plus vers un répertoire rock que vraiment la Nouvelle-Orléans. Mais oui, on peut pas renier les racines, quoi.
Et d'ailleurs, en parlant de répertoire rock, vous avez fait une reprise de Radiohead, Exit Music, ouais. Qui est certes un de leurs titres les plus acoustiques. Pour autant, il y a toujours ces petits éléments électroniques, dirons-nous. Est-ce que c'est difficile de rendre ça acoustique en quelque sorte? Est-ce que c'était une volonté de prendre Exit Music plutôt qu'une autre? Parce que certaines sont encore plus compliquées, j'imagine, à adapter. Est-ce que c'était un peu... Voilà.
Alors, je reviens sur une petite chose, je ne suis pas le compositeur de cette EP. Là, vu que c'est des reprises, je n'en suis que l'arrangeur.
D'accord.
Mais en fait, il y a vraiment un choix des morceaux. Alors déjà, au niveau de... On a voulu trouver un répertoire qui nous faisait vraiment plaisir, voilà, pour jouer ces morceaux. Alors, ils ne sont pas tout récents, mais aussi... L'idée, c'était pas forcément de surfer sur une vague, de prendre le dernier truc à la mode et d'en faire une reprise en fanfare. Après, il y a quand même le choix est assez pointu, dans le sens où on peut pas faire avec un trombone, une trompette ou des sax ce qu'on fait avec une guitare. Et du coup, il fallait quand même choisir les morceaux pour les harmonies qui pouvaient se prêter à des arrangements de cuivre, sur des formes aussi qui se limitent pas au juste couplet-refrain. Voilà, parce que après nous, on est aussi amené à les défendre dans la rue. Et voilà, on voulait avoir des morceaux qui tiennent la route quand même au niveau des harmonies, des formes. Voilà, et après, il y a le travail d'arrangement derrière. Comme je disais, on peut pas faire sur des instruments avant ce qu'on fait avec des guitares. Donc après, à partir de là, on reprend un squelette d'harmonie, un squelette de mélodie. Et puis après, c'est tout le travail d'arrangement derrière, de transposer... Ce que les gens connaissent dans des arrangements, dans des versions qu'ils connaissent pas, quoi.
Est-ce qu'il y a une petite part d'improvisation sur peut-être certaines notes un petit peu moins exactes, mais volontairement, pour laisser place, même quand il y a des ponts un peu dans les musiques, vous n'avez pas pris jusqu'au play-refrain, est-ce que c'était pour laisser place un peu à ça?
Non, là, globalement, les arrangements sont quand même très, très écrits, mais, et c'était le cas par exemple dans Black Hole Sun, là, il y a une partie solo, où là, du coup, c'est au libre choix de l'improvisateur.
Ok. Et je voulais parler d'ailleurs de ces reprises. Est-ce que les quatre qui sont dans cette EP, vous les aviez déjà joués avant, ou cette fois-ci, vous avez souhaité repartir de zéro, entre guillemets, et prendre quatre sons que vous n'aviez jamais joués en live sur scène, et faire un processus de studio total.
Sur les quatre morceaux, il y en a un qu'on avait déjà monté auparavant, c'est No One Knows des Queens of the Stone Age. Avant ça, on avait déjà depuis pas mal de temps au répertoire de la Saugrenue une reprise de Kashmir de Led Zepp et Bicycle Race de Queen. Et en fait, et donc plus récemment, il y avait eu No One Knows. Et puis depuis l'idée est venue il y a un peu plus d'un an, sortie du confinement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où il y a eu l'idée de faire quelques autres reprises et de les enregistrer. Et donc c'est là où du coup on a enregistré No One Knows, qui était une des plus récentes, et on y a rajouté Black Olsen, Exit Music et Grace de Jeff Buckley.
Et d'ailleurs, maintenant tu le dis, je pensais cette période de confinement, au final vous n'en avez pas forcément profité pour faire quelque chose en studio. Vous avez attendu au final de le faire après le confinement?
Ouais, on a fait un peu comme tous les groupes, je pense, une version confinée, mmh, avec des petits carrés dans tous les coins.
Ouais.
On en a fait qu'une. Et après, nous, l'idée, c'était quand même plus de rejouer ensemble. Alors là, un enregistrement, on enregistre en séparé, mais c'était de se voir et de créer ensemble. Ouais. Voilà, c'est quand même pas la même chose.
On est d'accord. Et d'ailleurs, parmi les quatre titres donc, qui sont sur l'EP, quel est, toi qui es en plus arrangeur sur le projet, quel a été le plus dur à faire? Est-ce que, au niveau de l'arrangement, le travail à refaire derrière, à comprendre comment jouer, comme par exemple quand il y a des guitares, savoir comment pallier à ça?
Ils sont... C'est sur Black Olsen, j'ai eu un peu plus de doutes sur est-ce que je m'égarais pas dans les arrangements à faire un truc un peu trop barré.
Peut-être le pont, du coup, où il y a l'improvisation.
C'est pas sur le pont, ça au final, c'est une retranscription assez fidèle, hormis le solo, de ce qui peut se faire à la guitare, parce que là, pour le coup, ça pouvait se transposer assez facilement sur des cuivres. Non, c'est plutôt sur les refrains, où du coup, il y a des contre-champs un peu dans tous les sens, mmh, alors que dans le refrain, l'original, c'est juste un gros arpège de guitare, bien avec une grosse distorsion. Et ça c'est quelque chose qu'on peut pas retranscrire, vraiment on peut pas le retranscrire sur des cuivres, donc j'ai dû faire quelque chose de complètement différent et voilà, quand j'écrivais ça tout seul dans mon coin, je me demandais, bon, est-ce que je suis pas en train de faire fausse route, mais bon, ça a été validé par le reste du groupe, donc voilà, c'est resté comme ça.
Parfait. Et d'ailleurs, en parlant tout du groupe, donc vous êtes jusqu'à 9 souvent, peut-être que je me trompe, des fois ça dépend en fait des jours de concert qui est disponible, j'imagine.
Non, généralement on joue à 7, mais il y a effectivement 9 personnes dans le groupe. Les 4 souffleux, donc trompette, trombone et les 2 saxophones, sont les mêmes.
Ok.
Voilà, et par contre on a 2 sous-bas, mais généralement il n'y en a qu'un qui joue sur les concerts, et on a 3 batteurs, mais il n'y en a que 2 qui jouent. Ils se séparent les éléments de batterie, en fait, tout simplement pour pouvoir déambuler quand on joue librement.
Ok, voilà. D'accord. Et dans tout ce groupe, ça n'a pas été dur pour choisir les titres? Parce que 4, en garder que 4, c'est minime finalement par rapport à tout ce qu'on a peut-être envie de faire quand on est 9 ou 7.
Après, là, globalement, on a un répertoire principalement de composition. Quand on joue, l'idée c'était pas de devenir un groupe qui fait que des covers, c'était juste d'en apporter quelques-uns en plus. Le choix final, c'est moi qui l'ai fait. On a demandé, en gros, on a fait un sondage pour tout le monde. Bon, quelles sont les envies de chacun? Après, le choix final, c'est moi qui l'ai fait, pour la simple et bonne raison que c'est moi qui faisais les arrangements et qu'il y avait des choses que je me sentais pas de faire. Voilà. Donc,
c'est compréhensible. Et je voulais aussi savoir, donc, Alexandre Zener, qui est au chant, au saxophone également.
Ouais.
Comment est arrivée cette idée du coup d'amener le chant, alors que quand on pense à des fanfares, on va peut-être penser plus à quelque chose d'instrumental tout simplement. Et au final, dans les reprises, il y a le chant qui est totalement présent. Et voilà, comment c'est venu, comment vous positionnez par rapport à ça?
Bon, en fait, Alex a toujours été un chanteur, et même un bon chanteur, en plus d'être saxophoniste. Et voilà, on a juste décidé d'utiliser ses capacités à bon escient. Comme je le disais, ça fait déjà pas mal de temps qu'on avait quelques reprises, on en avait deux ou trois. Lui, il avait aussi cette envie de mettre un peu plus en avant le chant. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté aussi vers des covers de morceaux chantés. Sur les autres morceaux, les compos, ça peut arriver qu'on ait du chant, mais c'est comme plus généralement des chœurs, donc où il n'est pas tout seul à chanter. Voilà.
Ok. D'ailleurs, quand vous êtes en live, vous utilisez souvent le mégaphone.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est assez... le système de diffusion dans la rue, c'est le mégaphone. Alors, ça passe très bien au niveau volume. On perd un petit peu en qualité, en définition du son, mais au niveau encombrement, on n'a pas trouvé mieux.
C'est une bonne solution en vrai. Ça rajoute un petit côté plus extravagant, entre guillemets. Ouais. Donc, ça attend moins. Ok, bah là on va s'écouter du coup Exit Music, donc la reprise de Radiohead, qui est la deuxième piste de Brass Cover. Donc je vous mets ça tout de suite. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape. We escape. Pack and get dressed before your father hears us, before all hell Vous êtes toujours dans Ghetto Blaster, Radio Campus France, et on est avec la Saugrenue. Aujourd'hui, donc là, on va reprendre une petite question au niveau des concerts, vu que c'est quand même ce que vous faites principalement, les fanfares de rue notamment, les concerts de rue. Et vous avez eu la chance de certes aller déjà partout en France, ce qui est déjà Très bien. Mais vous avez aussi été beaucoup à l'étranger, en Allemagne, en Corée, en Roumanie, il me semble.
En Roumanie, plusieurs fois, oui.
Comment c'est arrivé pour la Corée, tu m'as un peu dit déjà, mais peut-être revenir dessus.
Alors pour la Corée, en fait, c'était je parlais tout à l'heure du festival Jazz sous les pommiers à Coutances en Normandie, pour qui on avait déjà fait un projet pédagogique, et donc ils avaient un partenariat avec un festival en Corée du Sud, et le deal entre les festivals, c'est que Jazz sous les pommiers invitait des artistes, des jazzmen coréens. Et en contrepartie, du coup, le festival coréen invitait des artistes français. Et donc le festival Denis Lebas, je crois, qui est le directeur du festival Jazz sous les pommiers, a proposé plusieurs artistes, dont la Saugrenue, la fanfare La Saugrenue. Et donc on a été choisis. Parmi d'autres, il y avait la Caravane Pass aussi, je crois. Okay. Manu Katché aussi, mais bon. pour se produire une fois à Séoul et une autre fois au festival qui était à une centaine de bornes à Jarasum, je crois, si mes souvenirs sont bons.
Ok. Et tu allais me parler tout à l'heure de la Roumanie. Comment ça s'est passé pour ça ?
La Roumanie, alors c'est qu'on était déjà allé y jouer avec la Goutonnée, qui est une autre fanfare plus ancienne dans la Saugrenue. Et ben ils nous avaient rappelé et on y allait deux fois avec la fanfare Saugrenue. Une première fois à Bucarest même. Et on y retournait, je crois que c'était en 2011, voilà, à Sibiu, qui est une ville au milieu des Carpates, où il y a un festival d'art de rue, mais aussi international. Il y a aussi des spectacles en salle d'artistes et de compagnies qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et donc, voilà, on a pu se reproduire là-bas.
Finalement, on se rend compte que l'art de rue, en fait, il est inhérent à chaque pays, même en dehors du coup de l'Europe, même si bon, ça restait un festival en Corée, mais c'est assez fou, quoi. Il y a une tradition, c'est presque orale, quoi.
Pas forcément. Après, nous, ça reste très ponctuel quand on y va. C'est pour ça qu'on est aussi un peu comme des gosses quand ça nous arrive. Il y a deux ans, ouais. Aussi, on est allé jouer en Arabie Saoudite.
Okay.
Voilà.
Inédit.
Assez inédit, ouais, assez improbable, mais.
C'était un festival aussi.
C'était pour la fin du Ramadan. Okay. À Riyad, et pareil, donc il y avait des festivités, des compagnies, pas mal de compagnies françaises, mais il y avait aussi des compagnies espagnoles et anglaises, et voilà, on a joué 4 jours à Riyad pour la fin du Ramadan.
Ok, et je voulais savoir aussi, j'ai vu que vous aviez une chaîne YouTube, dont on voit par exemple jouer en Corée, est-ce que c'était important de garder tout de même une trace, comme avec l'EP que vous venez de sortir, une trace visuel, auditif de vos travaux, en fait, enfin, vos prestations. Est-ce que c'est quelque chose d'important, cette chaîne ?
Là par exemple, la prestation en Corée, ça a été complètement improbable, je crois savoir même de... C'est une vidéo où on joue sous un barnum avec des gens qui nous portent le barnum, en fait. Bon, on est arrivé là-bas, la date à Séoul s'était très bien passée, et puis arrivé sur le site du festival, des trompes d'eau. Mais des trompes d'eau, vraiment. Donc au début, l'heure à laquelle on devait jouer, bah, ça s'est pas fait, ça a été redécalé. Au final, ils nous ont quand même envoyé jouer sur le site du festival, mais avec toute une armée de bénévoles qui trimbalaient chacun un pied d'un barnum. Et voilà. Et du coup, les gens, le public qui se retrouvait là-bas sous des trompes d'eau, là, c'était aussi un peu une accalmie, et de voir des gens qui déboulent et qui jouent au milieu de la foule, c'est pas quelque chose, ça fait pas vraiment partie des codes là-bas. C'est quand même beaucoup de spectacles conventionnels sur scène avec les gens qui écoutent, et du coup, il y avait pas vraiment cette tradition d'art de rue là-bas en Corée. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça, tout de suite, ça a très bien marché, et voilà, cette vidéo. Voilà, j'invite les gens à aller la voir.
Oui, clairement, elle est super drôle. Enfin, c'est un peu insolite, quoi. En plus de les voir jouer. Et je voulais savoir aussi, vous faites uniquement des reprises. Peut-être que je me trompe, ça peut arriver que vous ayez fait des compositions originelles.
Non, c'est même le gros du répertoire, ce sont des compositions. Là, effectivement, l'EP qu'on sort, c'est des reprises, parce que c'est déjà des choses qu'on faisait, mais jusqu'à présent, on avait 2-3 reprises. Là, maintenant, on en a 5-6. Mais le gros du répertoire, c'est des compositions.
Et est-ce qu'il n'y a pas cette volonté, du coup, de sortir en format digital ou physique, en tout cas sur un album, des compositions propres à vous, celles que vous avez déjà ?
Ça, on verra par la suite. Hein. Pendant très longtemps, ce que je disais tout à l'heure, on s'est contenté de faire nos prestations en rue, sans forcément chercher à avoir un objet à vendre ou à diffuser. Là, c'est très récent, donc on verra après par la suite.
Très bien. Bah écoute, je crois qu'on a déjà pu bien parler de tout ça, de la saugrenue. Je voulais rappeler que vous seriez le 24 octobre à Saint-Amand-Montron.
Monron,
excusez-moi, j'écorche. Donc à la foire d'Orval.
C'est exact. Bien.
Voilà, et possiblement au Futuroscope à Poitiers, donc une date à confirmer. Donc on vous invite évidemment à aller vous rendre là-bas. Et après là on va s'écouter tout simplement les deux autres prises, donc Queen of the Stone Age, No One Knows and Jeff Buckley, Grace.
C'est ça.
Ghetto Blaster, c'est fini, en vous souhaitant une bonne écoute et une bonne fin de soirée. Salut.
Merci.